c'est ça, c'est ça. Bon, alors là, écoute, alors pourquoi on vous parle d'Harry Potter? Eh bien, comme ça, tout d'un coup, on a vu. Les livres d'Harry Potter et Rowling continuent d'attirer de nouveaux lecteurs près d'un quart de siècle. L'éditeur a déclaré que les ventes de la série ont augmenté de 7% au cours de l'année écoulée. Amazon annonce que Harry Potter à l'école des sorciers a refait son entrée parmi les 20 livres les plus vendus de la semaine. Aux États-Unis, à New York, on vient d'ouvrir un grand magasin où 4 étages sont réservés à Harry Potter, ce qui nous a fait nous poser la question: est-ce qu'il y a encore une mode Harry Potter, un désir Harry Potter? Est-ce que ça existe encore? Ou est-ce que ça a été l'affaire d'une génération? Faites-moi un peu de musique, là, parce qu'il paraît que déjà notre entrevue, attendez un peu, c'est écrit sur ma feuille, est dans le journal La Gazette des Sorciers. Que déjà, à travers le monde, l'entrevue que nous allons faire avec Marianne Chaillant est annoncée. Oh, etc. Alors, pendant les nouvelles, nous avons fait les tests. Madame Karima Brick a été déclarée Serpentard. Vous avez déclaré comment?
Serdaigle.
Serdaigle. Et moi, évidemment, qu'est-ce que vous voulez, comme d'habitude? Michel devrait nous dire, est-ce que c'est la musique de John Williams, en fin de compte, la musique d'Harry Potter? Oui. Que c'est beau. Bon, arrêtez la musique, que je dise bonjour à mon invité.
Donc, vous êtes Gryffondor, disons-le.
Certains,
mais oui, mais un peu.
C'est parce que je savais que le public saurait que je suis tout près d'Hermione, qui est évidemment mon idole. Alors, quelle était votre idole? Est-ce que c'était Hermione? Est-ce que c'était Harry? Ou la famille Weasley, etc. Bonjour, Madame Chaillant.
Bonjour.
Comment
bonjour à tous.
Ça va bien?
Ça va très bien. Êtes-vous très content d'être avec vous.
Ah, moi aussi. Êtes-vous dans les serres d'aigle? Êtes-vous dans les serpentards? Vous, avez-vous vérifié?
Eh bien, j'ai fait le test, comme vous, et je vous avoue que j'ai oublié le résultat parce qu'il ne me convenait pas.
et que j'ai décidé,
en écoutant bien ce que nous dit J.K. Rowling, c'est que le choix pot tient compte de nos préférences. Ma préférence à moi, c'est comme vous, Joël, c'est d'être à Gryffondor, donc je suis... une Gryffondor.
Et c'est la dernière chose qu'on entend du dernier film, quand le petit garçon de Harry a peur d'aller à Poudlard et qui lui dit « Non, non, tu n'as pas à t'inquiéter, ce que tu veux véritablement dans ton cœur, le choix-peau va en tenir compte. Hein? »
Exactement, exactement. Et là, on a d'entrée, vous voyez, une leçon de philosophie, en fait, parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, J.K. Rowling, à travers cet objet qui est le choix-peau magique? Elle nous dit que, bien sûr, on a des caractéristiques, on a une personnalité, mais cela ne va pas constituer une nature qui dessinerait pour nous un futur. Ce que sera notre vie, c'est nous qui allons décider de le faire. Nous sommes libres et cette philosophie de la liberté traverse toute la saga.
Alors, Marianne Chaillant est professeure de philosophie au lycée Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille. Elle est auteure chroniqueuse de nombreux ouvrages de pop philosophie. Et ça, et c'est pour ça qu'on vous pose la question à vous et qu'on va parler d'Harry Potter. Vous avez écrit « Culture pop, Harry Potter à l'école de la philosophie ». Qu'est-ce que vous avez trouvé qui pouvait enseigner la philosophie chez Madame Rowling?
Oui, eh bien, en fait, figurez-vous, je suis une vraie fan de Harry Potter et je me suis demandé, est-ce que je suis fan parce que ça me détend ou est-ce que je suis fan parce qu'en tant que professeur de philosophie, j'y trouve là de la matière philosophique? Peut-être les deux en même temps. Et en tout cas, j'ai décidé de relire les livres, de revoir les films et je me suis demandé, est-ce qu'il y a une sagesse philosophique dans cette série? Et en fait, il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc j'ai dû écrire un livre, en fait. J'ai dû écrire un livre dans lequel j'ai d'abord relevé des références à la philosophie classique. En fait, quand on rentre à Poudlard, on apprend, non pas simplement des cours de défense contre les forces du mal, on n'apprend pas des sortilèges, mais on apprend aussi des sortilèges philosophiques platoniciens, stoïciens, sartriens. Il y a plein de choses dans Harry Potter. Et puis aussi, j'ai trouvé une philosophie propre de la saga, dont on parlera peut-être, sur la thématique de la finitude. Mais en tout cas, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui pourrait passer à tort pour un livre uniquement réservé aux enfants, un livre un peu comme ça, sympathique, est un livre très profond. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore il connaît ce succès, parce qu'il possède en lui-même tant de pépites philosophiques.
Alors, vous répondez, quand je vous écoute, là, vous répondez à la question, est-ce que Harry Potter c'était l'affaire d'une génération, ou est-ce que c'est tellement important, c'est tellement bon, c'est tellement formidable, que c'est l'affaire de beaucoup de générations? Autour de moi, il y a des gens entre 25 et 75 ans, ils sont tous fascinés et aimant Harry Potter et son monde.
Mais oui, en fait, on parle parfois de cette génération Harry Potter, celle qui avait l'âge de Harry quand le livre est sorti. Alors oui, il y a cette génération-là, mais moi je crois, je n'en suis pas un de cette génération, j'ai 40 ans, j'avais 20 ans quand le premier tome est sorti. Je crois qu'en fait, c'est Harry Potter, c'est un peu comme Poudlard, et chaque année, il y a une nouvelle génération qui rentre, et donc il y a autant de générations de fans de Harry Potter qu'il y a de lecteurs, en fait, hein, de Harry Potter. Donc voilà, il y a plusieurs générations, et il y aura, je crois, de nombreuses générations.
Alors, expliquez-nous ce que vous faites dans votre classe quand vous parlez de Sartre et Harry Potter.
Oui, bon, vous savez, un cours de philosophie, spontanément, ne suscite pas une adhésion folle. Parfois, les élèves sont fatigués, parfois, on parle d'auteurs dont ils se disent « Mais pourquoi on va me parler de cet auteur qui est mort depuis si longtemps? Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, qui peut m'importer aujourd'hui ?» Et c'est là que Harry Potter se révèle être un livre magique, en fait, parce qu'il permet aux élèves de leur rendre perceptibles des questions de philosophie très classiques. Par exemple, si on se demande... est-ce que la vertu, ça existe? Est-ce que c'est possible d'être quelqu'un de moral? Et si oui, d'ailleurs, à quoi ça sert d'être moral? En fait, cette question-là, on y répond dans Harry Potter. Quand j'essaye de faire lire un texte de Platon, que vous connaissez peut-être, dans La République, il y a cette histoire de l'anneau de Gigès.
Oui.
Alors ça a inspiré Tolkien, bien sûr, mais J.K. Rowling, elle s'inscrit dans ce débat quand elle nous parle de la cape d'invisibilité. Elle donne à son héros une cape qui lui permet d'être invisible et de faire ce qu'il veut. Et pour autant, est-ce qu'il va commettre le mal alors qu'il pourrait le faire en toute impunité? Eh bien non, on voit qu'il est possible, alors même qu'on peut faire le mal en toute impunité, de rester vertueux, ce qu'on ne fera pas Voldemort. Et là, on a une autre question, mais alors à quoi ça sert d'être vertueux? Et encore une fois, J.K. Rowling nous donne une leçon de philosophie platonicienne. On voit que celui qui fait le choix du mal, Voldemort en l'occurrence, on voit sa laideur physique. Pourquoi? Il était très beau, vous vous en rappelez, non? Tom Jedusor est décrit par J.K. Rowling comme très beau. Quand on le rencontre, bon, vous allez me dire, c'est une question de goût, mais quand même, il n'est pas tout à fait beau. Et à quoi correspond ce visage que nous découvrons de Voldemort? En fait, c'est le corrélat de l'altération de son âme sous l'effet du mal. C'est une thèse platonicienne que faire le mal mutile l'âme. C'est une thèse qu'on trouve à la fois sous la plume de Dumbledore et sous la plume de Platon. En fait, on a cette leçon de philosophie morale, on a tant de leçons en lisant Harry Potter.
Alors, mais Harry arrive dans le premier. Moi, j'ai trouvé ça formidable parce que on essaie d'intéresser aux enfants à ce petit garçon qui n'est pas aimé, qui est tout seul, qui vit même en dessous d'un escalier. C'est quelque chose de très surprenant et les enfants ont tout de suite marché à ça. Quelles sont les valeurs d'Harry Potter, de J.K. Rowling à travers tout ça?
Ah, il y en a vraiment beaucoup. Il faudrait qu'on fasse toute une émission. C'est vrai que cet enfant, d'ailleurs les livres sont plus durs que les films hein, à cet égard sur l'enfance de Harry. Je pense qu'on a... Voilà, il y a deux personnages en fait essentiels hein, dans la série. Il y a Harry et puis il y a son pendant négatif qui est Tom Jedusor, parce que Tom Jedusor aussi, son enfance n'était pas très drôle. Hein. Et elle-même était très violente. Et ce qu'on va voir, c'est comment ces deux enfants vont cheminer de manière tout à fait différente. Et pourquoi ce chemin? L'un est un chemin de mort et l'autre est un chemin de vie. Et ce que J.K. Rowling va nous montrer, c'est plein de choses. C'est comment les hommes sont libres d'écrire leur histoire, comment il ne faut pas redouter la mort, la valeur de l'amitié, la valeur de l'action morale. Et puis, de-ci de-là, encore plein de leçons de philosophie sur l'acceptation de ce que constitue, je ne sais pas, par exemple, si vous pensez au détraqueur, est-ce que ça, ce n'est pas une invention remarquable?
Tout à fait.
Peut-être que vous savez que J.K. Rowling a perdu sa mère et elle pensait à Harry Potter au moment où elle a vécu cette tragédie et la douleur qu'elle a ressentie lui a donné l'idée du détraqueur. C'est-à-dire que le détraqueur, c'est cette douleur qui nous envahit au point qu'on ne ressent plus, de joie en soi. Mmh. Or, J.K. Rowling invente le détraqueur, mais elle invente une arme contre le détraqueur. Pour tous ceux de vos auditeurs qui ressentiront un jour la tristesse les envahir, J.K. Rowling nous donne une arme.
Les détraqueurs, là, quand tout d'un coup, c'est Hermione qui explique, les détraqueurs, c'est ceux qui enlèvent la joie.
Exactement. Et ça, on va tous le connaître. Et on l'a tous déjà connu ici. Oui. Et J.K. Rowling, elle nous donne une arme toute philosophique pour résister comme ça à l'envahissement de la tristesse dans notre vie. Alors bon, on n'est pas magicien, on ne pourra pas jeter ce sortilège du Patronus. Mais on peut faire cet exercice stoïcien qui consiste à se concentrer. C'est un exercice qu'on trouve dans la philosophie stoïcienne. Hmm. Et qui consiste à engager toute son énergie dans le rappel des souvenirs heureux. Et on lance en quelque sorte un bouclier face aux événements douloureux de la vie en s'appuyant sur ces événements heureux qui produisent encore leur effet en nous. Ça, c'est une sorte de, magie.
Et en même temps, pour les enfants, c'est très difficile parce que tout est basé sur le mal qui veut tuer. Mais on ne veut pas seulement faire du mal, on veut tuer Harry Potter. Tout se passe autour de ça, du premier moment au dernier. Voldemort veut tuer Harry Potter. Parlons donc de cette finitude et de ce que J.K. Rowling propose dans ce regard qu'elle pose sur la mort.
Oui, alors pour moi, c'est vraiment le cœur de la saga. Et peut-être que vous vous rappelez que Montaigne nous dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. Mmh. Eh bien, moi, je pense que lire Harry Potter, c'est apprendre à mourir. Et de ce point de vue, lire Harry Potter, c'est vraiment faire de la philosophie. Parce que ceux qui penseraient que Harry Potter, c'est un événement merveilleux, magique, se trompent. Très vite, d'ailleurs, on le voit dans les adaptations au cinéma. Le thème devient sombre et chaque film se termine par la mort d'un personnage important. C'est un univers qui est très dur. Et effectivement, ce que J.K. Rowling nous demande de faire, en quelque sorte, avec son personnage, avec son héros principal, c'est de parvenir à intégrer la perte, la tristesse, la douleur et la mort comme des dimensions essentielles de ce qu'est la vie et de ne pas vouloir les retrancher. Mmh. Elle nous apprend vraiment que la souffrance, c'est l'envers de la joie. La douleur, c'est l'envers du bonheur. Et quand on veut le bonheur, on doit aussi prendre la tristesse. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Voldemort, c'est celui qui voudrait uniquement l'invulnérabilité.
Bien sûr, Voldemort veut vivre toujours et il veut posséder le pouvoir.
C'est bien. Exactement. Oui. Exactement. Et c'est pourquoi, en fait, il est mort dès sa vie même. Mmh. Il veut ne pas mourir et à ne vouloir jamais mourir. En fait, il meurt à sa propre vie. Harry, c'est celui qui va apprendre. Il perd ses parents, il perd son parrain, il perd Dobby, il perd Diggory, il connaît des ruptures amoureuses. Et pourtant, c'est celui qui va se présenter. Vous vous rappelez cette scène extraordinaire. Il va se présenter devant Voldemort, sachant qu'il va au-devant.
Sachant qu'il va mourir.
Exactement. Et donc, il devient, sous nos yeux, le maître de la mort.
Oui.
C'est ça que veut nous faire faire, J.K. Rowling.
Et Dumbledore dit à Harry, tu es le vrai maître de la mort parce que la mort, le vrai maître, ne cherche pas à la fuir. Il accepte le fait qu'il doit mourir. C'est très dur pour des enfants qui regardent un film là, pour les enfants.
C'est vrai. Et en même temps, c'est aussi leur dire la réalité de ce que sera la vie et leur dire à travers un conte. Vous voyez, si vous relisez les contes de Perrault, d'Andersen, c'est pas très rigolo non plus. Hein. Et là, on a un conte qui délivre encore une fois une leçon effectivement particulièrement douloureuse, mais de la même manière qu'il sera douloureux aussi de vivre. Et c'est très fort qu'elle réussisse à faire ça et qu'elle ait réussi à susciter un tel engouement. Mmh. La phrase que vous avez citée, pour moi, c'est le cœur de la
oui,
série. C'est
oui.
Vraiment le cœur de Harry Potter. Hein. Mmh. Y a des reliques qui pourraient nous rendre invulnérables, mais si Harry est le maître de la mort, ce n'est pas parce qu'il possède les reliques, c'est parce qu'il a accepté sa propre mort.
Et l'autre phrase qui est très belle, alors Dumbledore dit, alors quand la prophétie dit que j'aurai un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, oui. Harry, cela signifie simplement l'amour, oui, simplement l'amour. C'est absolument magnifique, c'est une œuvre absolument magnifique.
Mais je suis d'accord avec vous et vous voyez ce que ça nous dit aussi, ça nous dit que peut-être vous et moi n'avons hélas pas reçu notre lettre d'admission à Poudlard, mais nous possédons le plus grand de tous les pouvoirs qui n'est pas celui de la magie, mais qui est celui de l'amour. Donc, en fait, J.K. Rowling nous donne le moyen à chacun d'entre nous d'user de cette magie que nous pouvons posséder par notre capacité à aimer et à être aimé.
Madame Chaillant, c'était passionnant de vous parler. Je rappelle votre livre qu'on peut trouver d'ailleurs, disponible sur commande, Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne Chaillant. Et puis, je suis très content d'être passé dans la Gazette des sorciers.
on les salue avec amitié.
Merci beaucoup, Madame Chaillant.
Merci à vous, merci beaucoup.
Au plaisir, au merci beaucoup. Monsieur Gravel, êtes-vous dans la... Oh, vous, ça doit être dans les Serpentards.
Oh, moi, je suis plus dans le Proust ces temps-ci. À mon grand mal.